Le problème est que les espaces traditionnels de la démocratie sociale qui a existé dans ce pays ont été mis à mal et qu'à partir de là, il y a une redéfinition du politique et de ses acteurs qui est à naître.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au 33e rencontre de Pétrarque à Montpellier dans la cour Soulages du rectorat. Le retour de la rue, c'est le thème de notre semaine. Bonsoir Jean-Bernard Baume.
Bonsoir Hervé, bonsoir à toutes et à tous.
Alors comment se faire entendre quand on se sent mal, voire pas du tout représenté? Eh bien la rue est là pour tenter d'y remédier. Occuper l'espace public, manifester, voilà des modalités qui traversent les âges. C'est un des principaux modes d'action choisi par une partie de la jeunesse lycéenne aujourd'hui pour faire connaître son mécontentement à l'égard des dirigeants et de leur politique climatique, ou alors de leur politique fiscale s'agissant d'un autre mouvement d'occupation du terrain, celui des Gilets jaunes. Il s'agit de faire savoir ce que l'on veut et qui l'on est. La marche des fiertés qui avait lieu samedi dernier à Paris, 50 ans après les émeutes de Stonewall à New York, en est une illustration. Pour la communauté LGBT, il s'agit de sortir d'une forme d'invisibilité, ce qu'avait réussi à faire de manière spectaculaire il y a une trentaine d'années l'organisation ACT UP. Spectaculaire aussi les actions des fémènes, ces militantes féministes qui usent de leur corps comme d'un instrument politique pour porter la parole et les droits des femmes. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'actualité, aussi un peu à l'histoire de mouvements qui ont renouvelé le genre et les thèmes de la manifestation, et ce, en compagnie, Jean-Bernard Baume, de quatre invités.
Oui, en commençant par Didier Lestrade, je me tourne vers vous. Bonjour Didier.
Bonsoir. Merci.
Vous avez longtemps incarné le mouvement ACT UP Paris, que vous avez fondé en 1989 avec d'autres militants, dont plusieurs, comme vous, étaient journalistes. Ensemble, vous avez entrepris de troubler un certain ordre politique, un certain ordre public également, et de briser un silence, celui qui étouffait les malades du sida. Or, au centre de ce combat, on retrouve justement la rue, l'idée de répandre à même les rues une longue traînée de souffrance et de fierté. Une longue traînée de souffrance et de fierté, c'est une formule que je trouve très belle et par laquelle vous avez résumé l'histoire d'ACT UP, une histoire que vous avez également racontée dans un livre publié chez Flammarion en 2010.
Emmanuel Rengouat, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, maîtresse de conférences en sciences politiques. Vous co-dirigez le département de sciences politiques de l'Université de Montpellier. Vous vous intéressez en particulier aux questions européennes, ce qui s'est traduit dernièrement par la publication d'un ouvrage, une enquête sur les opposants à l'Europe. C'est un livre que vous avez publié aux éditions du Bord de l'Eau. Et puis, parallèlement à cet intérêt pour les questions européennes, vous vous intéressez également à ce mouvement des Gilets jaunes. Vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'un collectif de chercheurs, 70 dans toute la France, qui essaie, un peu à l'écart du bruit médiatique, de voir ce que cela veut dire et surtout ce que ce mouvement a pu faire en termes, peut-être notamment, de politisation auprès de ces personnes pour qui c'était parfois la première fois qu'ils se mobilisaient.
On va vous présenter maintenant Inna Shevchenko. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes née sur les bords de la mer Noire, en Ukraine. Vous avez fait des études de journalisme, vous aussi, comme Didier Lestrade. Et vous avez choisi de vous engager dans le combat féministe en adhérant au mouvement des Femmes, hein, qui a été fondé en 2008 et qui s'est rapidement fait connaître par ces fameuses actions menées torse nu, actions qui vous ont parfois attiré des critiques dans le mouvement féministe, on y reviendra peut-être, mais aussi fait courir de gros risques, de risques physiques, notamment en Biélorussie. Vous avez été enlevé et menacé avec plusieurs de vos camarades. Cela vous a pas empêché de continuer à militer un peu partout dans le monde et désormais en France où vous êtes réfugié depuis 2012. Vous avez aussi publié un livre qui s'appelle Héroïque au pluriel et qui est paru récemment aux éditions Les Échappées.
Voilà, il y a notre quatrième invité en 33 éditions des rencontres de Pétrarque. C'est sans doute la Benjamine de ces rencontres. Yona Maret, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes lycéenne, vous êtes devenue en quelques semaines un des visages de la mobilisation mondiale des jeunes pour le climat. Vous vivez en Belgique, à Bruxelles, qui est un des hauts lieux, la Belgique, de cette mobilisation. Dans la lignée, dans la foulée du mouvement lancé par la Suédoise Greta Thunberg, vous avez créé une page Facebook Génération Climat qui appelle notamment les jeunes belges à se rassembler tous les jeudis devant le Parlement européen. Je précise que par ailleurs, vous êtes également engagé dans une ONG. Vous nous direz peut-être d'ailleurs s'il y a une cohérence entre cet engagement pour le climat et dans cette ONG qui s'appelle Défi Belgique Afrique, qui regroupe notamment des adolescents pour les interpeller sur la question des inégalités nord-sud. Alors c'est avec vous que je voudrais commencer, Yona Maret. C'est une question qu'on doit sans doute assez souvent vous poser, mais quelle a été pour vous le déclic qui vous a donné envie de vous engager, de manifester sur les questions climatiques. J'évoquais notamment cette jeune Suédoise Greta Thunberg. Est-ce qu'elle a participé de votre envie de vous engager?
Alors oui, donc moi je me suis, enfin je suis très informée de tout ce qui est climat, inégalité Nord-Sud via mon ONG. Et en septembre, j'avais vu, comme à mon avis beaucoup d'entre vous, le rapport du GIEC qu'il avait publié à l'époque. Et j'avais pris en fait la peine de le lire. Donc je me suis équipée de mon ordinateur, d'un dictionnaire et vraiment d'essayer de le décrypter, de savoir en fait ce qui se passait réellement. Et après une semaine de lecture, je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'allait pas du tout. Dans ce rapport, il disait notamment qu'on avait 12 ans avant de foncer dans le mur. Donc en fait, il disait qu'on avait 12 ans avant qu'il y ait des répercussions qui seraient inévitables et qui seraient non réversibles. Et ça m'a vraiment... Enfin, ça m'a foutu une glaque, en fait. Je me suis dit, mais enfin, on le sait et on ne fait rien. Et puis, dans les semaines d'après, j'ai entendu justement parler de la Suédoise Greta Thunberg, qui, chaque semaine, allait toute seule avec sa pancarte devant le Parlement suédois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas parce qu'on est jeune et qu'on n'a pas encore une voix via des bureaux de vote qu'on ne peut pas s'exprimer. Et donc, très rapidement, un mouvement s'est mis en place en Belgique.
Voilà, parce qu'il faut préciser, hein, vous n'avez pas encore tout à fait 18 ans. En Belgique, c'est comme en France, le droit de vote, c'est à partir de 18 ans. Donc, c'est une autre forme d'expression. Est-ce que... Petite question personnelle, mais est-ce que vous venez, vous, d'une famille particulièrement militante ou bien ça s'est fait de manière peut-être progressive, cette envie justement de vous engager?
Alors non, je ne viens pas d'une famille militante. C'est une famille qui est aujourd'hui consciente sur énormément de thématiques, mais que j'ai conscientisé en fait moi-même. Donc c'est moi qui suis végétarienne aujourd'hui, qui est... pas imposé, mais proposé à ma famille de diminuer la consommation de viande. On est passé au sans plastique à la maison. Enfin voilà, donc il y a plusieurs choses qui se sont mises en place, qui ont fait qu'aujourd'hui pour ma famille c'est complètement naturel de se mobiliser. Mais c'est pas quelque chose. Je vais pas aux mobilisations avec mes parents et je n'y ai pas été spécialement avant de moi-même me mobiliser.
Alors, je me tourne vers Didier Lestrade. Vous savez que depuis plusieurs jours, depuis le début de ces rencontres, on essaie d'inscrire les différentes mobilisations à la fois dans l'histoire et puis de créer des résonances aussi entre elles. J'aimerais savoir comment vous voyez les mobilisations finalement pour le climat aujourd'hui. Moi, j'y vois quand même un petit rapport avec celles qui ont été les vôtres, notamment à l'époque d'ACT UP, notamment dans ce double geste qui est à la fois, et on l'a souvent dit pour les manifestations climat, à la fois de freiner la catastrophe, de vouloir entraver, se mettre en travers d'une catastrophe à venir, et c'était votre cas aussi avec ACT UP, et en même temps de le faire à travers des formes qui sont parfois joyeuses, gaies, sardoniques, narquoises, provocatrices. Et comment est-ce que vous voyez ces manifestations climat? Est-ce que vous y reconnaissez une forme d'héritage de vos propres luttes?
Non, moi je trouve que c'est génial. Je pense que maintenant je suis un peu un papy de la résistance, donc je suis le plus âgé ici, et je peux voir vraiment les cycles, à quel point les cycles sont vraiment intéressants. Moi je suis parti d'ACT UP en 2004, après 15 ans, quand je trouvais que l'association était moins bien, et franchement à cette époque-là, avec les réseaux sociaux qui commençaient et tout ça, Internet, il y avait cette sorte d'idée que la manif de rue c'était un peu fini. Que les gens se mobilisaient à travers Facebook, faisaient des pétitions, mais que le fait de descendre dans la rue, c'était quelque chose qui était du passé. Et en plus, souvent, on disait « les jeunes ne le feront pas, en tout cas ». Et ça, c'est un exemple typique de... quand on est confronté à des gros sujets comme ça qui nous dépassent, pour lesquels on se sent vraiment très passif, incapable de faire quelque chose, il y a un sentiment de colère et de désespoir qui monte et qui montre que le fait que les jeunes s'engagent maintenant, non seulement le fait qu'ils descendent dans la rue, c'est bien sûr, bon, c'est l'argument de masse, le monde que vous êtes en train de faire, c'est celui que nous, on va devoir affronter dans 20 ans, mais c'est une sorte de disproportion entre les forces. D'un côté, il y a des jeunes qui n'ont pas vraiment beaucoup de pouvoir, et d'un côté, il y a les États, les multinationales, l'économie, la pollution. Et donc, on voit que... Moi, j'ai lu un article aujourd'hui, j'ai vu que les producteurs de l'OPEP, les producteurs de pétrole, considèrent que maintenant, les mouvements écologiques nourris par les jeunes sont la plus grande menace. Donc, on arrive... à débloquer une situation en apportant de l'information, en faisant des rapports de pouvoir. Et bien sûr, c'est très intéressant. Au début, quand vous commencez à manifester de cette manière, de toute façon, tout le monde se moque de vous. Mais il suffit d'un an et demi pour retourner la crêpe. Et les gens, après, c'est précisément ce qui vous gênait au début, qui vous attire et qui fait que vous rejoignez le mouvement. De toute façon, moi, je considère que dans le sida, j'étais un des rares en France à parler de ça, dans toutes les maladies, moi, je vois une écologie. Il y a une écologie de la sexualité. Nous, dans la prévention, on disait, bon, ça sert à rien de contaminer quelqu'un quand on peut se protéger, etc. Donc, dans l'écologie, c'est exactement la même chose. C'est une manière de contribuer à un effort commun pour réduire la catastrophe qui arrive.
Ina Shevchenko, est-ce que la colère qu'évoque Didier Lestrade, ça a été un des moteurs à vous de votre engagement? Vous racontez dans votre livre Héroïque, alors vous y faites à la fois des portraits de femmes puissantes, hein, toujours puissantes, ce terme-là est très important, mais c'est aussi l'occasion pour vous de raconter votre vie et des premiers constats du fait que être une fille et l'être en plus en Ukraine, c'est quelque chose qui est compliqué. J'aimerais que vous nous parliez d'un dessin animé soviétique qui va contribuer à votre prise de conscience et peut-être à cette colère que vous manifestez ensuite.
Merci pour cette question. En effet, colère d'une femme, c'est quelque chose que j'ai jamais vu en Ukraine pendant mon enfance. J'étais entourée par des femmes très fortes. Elles peuvent tout faire, elles ont tout fait. Mais elles étaient toujours silencieuses, économiquement actives, politiquement passives. Et donc la colère d'une femme, j'ai jamais ressenti, j'ai jamais vu ça. Et nous, les jeunes filles en Ukraine, on apprend qu'il faut être une fille sage, une fille bien, sous tous les rapports. Et donc bien sûr, dans mon cas, passer de cette fille bien à une révolutionnaire ou même pour certains une délinquante, bien sûr c'est un grand chemin, mais quand j'explique dans le livre, c'est grâce aux exemples de beaucoup de femmes qui ont jamais montré leur colère, mais qui ont montré leur capacité, leur ambition, leur puissance, que j'ai pu retrouver cette colère en moi et rejoignait les autres filles qui étaient déjà en colère en 2008 à Kiev pour d'abord je dois préciser que le mouvement féminin est né dans un des pays post-soviétiques pendant une crise économique, politique, sociale. Le mouvement est né dans une société apolitique, sexiste et désespérée en même temps. Et donc pour nous, notre démarche de commencer nos manifestations dans la rue, c'était une démarche pour reprendre justement cette place publique pour les femmes, mais aussi de résister cette notion, cette idée que le corps de la femme soit sexuel par définition, et que la voix féminine soit silencieuse par définition.
Ina Shevchenko, pardonnez-moi, je vous interromps. Comme j'ai évoqué un dessin animé qui a été quelque chose d'important dans votre prise de conscience, c'est un dessin animé soviétique où il y a un héros qui est un crocodile, hein, si ma mémoire est bonne. Tous les personnages sont masculins, la plupart du temps d'ailleurs dans ces dessins animés que vous regardez beaucoup étant petite, la plupart des personnages sont masculins, sauf une fois où il y a un personnage féminin, exactement. Mais elle est très méchante et c'est une sorcière. Vous dites ça a vraiment été quelque chose d'assez choquant pour moi.
Absolument, mais c'était choquant pour moi en tant qu'enfant de voir la seule. C'était un des dessins les plus. C'est toujours un des dessins les plus connus russophones. Donc dans tous les pays soviétiques, les enfants ont regardé ce dessin animé et donc tous les personnages principaux sont masculins et surtout le personnage principal qui est un héros, en effet un héros avec les valeurs socialistes, et il y a une femme qui est la seule personnage méchante
mais aussi elle a une copine qui est aussi féminin et qui est une
Alors, qui va nous traduire? Un rat.
Oui, voilà.
J'avais perdu. Okay, voilà. J'ai perdu
donc, c'est encore plus pire. Et donc, bien sûr, une petite fille ukrainienne ne peut pas s'identifier à un crocodile masculin, mais non plus, je voulais pas m'identifier à une femme méchante qui cherche chaque jour qu'est-ce qu'elle peut faire méchant pour les autres. Donc voilà, c'était aussi une crise d'identité, en effet, pendant mon enfance, où retrouver ces femmes puissantes qui peuvent t'inspirer. Mais en effet, elles étaient partout, et elles étaient partout autour de moi, mais elles étaient silencieuses. Et donc j'ai dû regarder plus attentivement, écouter plus attentivement pour comprendre que moi aussi, je peux être puissante.
Merci. Alors, je me tourne vers Emmanuel Ringot maintenant. Vous avez travaillé notamment, Hervé le racontait et le rappelait, sur les Gilets jaunes. Et depuis le début de ces rencontres également, on a beaucoup tourné autour des Gilets jaunes, on a beaucoup parlé d'eux, on leur a donné même, certains et certaines ont pris la parole ici, il y a eu des moments forts. Et en même temps, depuis le début, on a eu une difficulté à inscrire le mouvement des Gilets jaunes dans une continuité des mobilisations. On a parlé notamment avec Daniel Tartakovsky de l'histoire des mobilisations ouvrières au 19e et au 20e siècle. Là, on parle des manifs climat contemporaines, des manifs ACT UP, des interventions ACT UP, du mouvement féministe. Et à chaque fois, le mouvement des Gilets jaunes a l'air d'apparaître comme une espèce d'isolat au sein de dans ce paysage politique et social. Est-ce que vous arrivez à l'inscrire finalement dans une forme de continuité, ou est-ce que vous voyez des résonances entre ce mouvement et toutes les mobilisations dont on parle aujourd'hui?
Alors, peut-être pas avec toutes, mais il y a certains éléments qu'on peut inscrire dans une continuité ou dans un contexte historique, on va dire, à peu près récent, à l'échelle de quelques années ou quelques dizaines d'années. Par exemple, c'est un mouvement qui est très fortement caractérisé par une défiance, une critique de la représentation, notamment des partis politiques. Et ça, c'est pas singulier, c'est des choses qu'on retrouvait sur tous les mouvements d'occupation de place. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup, je ne sais pas si Yona sera d'accord, mais dans les discours des lycéens, dans beaucoup de discours... Des manifestations sur les questions climatiques. C'est aussi un mouvement qui est, qui est caractérisé par le fait qu'il n'y a pas d'organisation qui le structure. Et il n'y a pas un discours unique sur le fait de se structurer ou pas en organisation. Les Gilets jaunes sont assez partagés là-dessus. Mais de fait, là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve récemment dans plein de mouvements. Et là, c'est quelque chose qui a existé dans l'histoire, mais qui est quand même un peu nouveau par rapport au mouvement des années 70, par rapport à des mouvements comme FEMUN ou comme ACT UP. Qui pose des questions aussi de... ça permet les choses. C'est ce qui a permis à ce qu'il y ait toute une population qui ne se mobilise pas d'habitude, qui vienne. Notamment, et là c'est une singularité, on a toute une partie des Gilets jaunes qui sont plutôt issus des classes populaires ou des classes moyennes inférieures, pour dire les choses de manière un peu rigide peut-être. Mais pour le dire autrement, on a toute une partie de néo-manifestants. C'est pas que ça les Gilets jaunes. Nous on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de gens dans nos enquêtes sur différents lieux qui avaient déjà une expérience militante. Et donc autre singularité, ou peut-être pas singularité, mais particularité de ce mouvement-là, ou intérêt de ce mouvement-là, c'est qu'on a des populations qui s'y mélangent, qui ne sont pas du tout habituées à se côtoyer, ni à se mobiliser ensemble, qui ont des rapports aux politiques très différents, des orientations politiques très différentes, et ça, on peut penser que ça va aussi produire des choses.
Et dans le rapport à la rue, parce que c'est aussi notre sujet cette année, des rencontres, qu'est-ce que les manifs climat, ACT UP, les FEMUN, à chaque fois on voit qu'il y a une singularité dans la frappe manifestante ou dans la frappe activiste, dans l'occupation de l'espace, dans cette manière de se réapproprier l'espace urbain et la rue. Les Gilets jaunes là-dedans, comment est-ce que à nouveau vous définissez la singularité?
Pour le coup, ils ont fait preuve d'innovation. C'est sans doute en partie lié au fait qu'on a toute une partie de néo-manifestants, donc de gens qui n'avaient pas spécialement d'expérience militante ou protestataire, et donc du coup qui ont inventé des formes d'action. Donc, par exemple, occuper les ronds-points. C'est quelque chose qui est nouveau. Les occupations d'espace ou de place, c'est pas nouveau, mais le choix des ronds-points, il est intéressant. Il est probablement lié au fait qu'on a toute une partie des Gilets jaunes qui sont issus de banlieues périphériques de grandes métropoles. Donc le rond-point, c'est à la fois un lieu de proximité, c'est à la fois un lieu symbolique sur l'usage de la voiture, et c'est aussi un lieu où on peut faire place publique, forum, puisqu'on parle de politisation. C'est un lieu où il y a de la discussion politique, où il y a de la politisation, qui est plus accessible que des centres-villes qui ne sont pas toujours les lieux d'habitation.
Didier Lestrade, la question de la représentation, est-ce que ça a été quelque chose d'important dans la façon dont, à ACT UP, vous avez imaginé vos actions? C'est-à-dire, est-ce que l'idée, c'était aussi d'être visible parce que vous considériez que vous n'étiez pas vous n'étiez pas représenté ou écouté.
Non, il y a ça, bien sûr, mais moi, j'ai écrit un papier pour Slate là-dessus où je fais des comparatifs entre les Gilets jaunes et ACT UP, parce que moi, je me considère comme un Gilet jaune. Hein. J'ai mis le Gilet jaune dans ma voiture, je vis à la campagne, je suis au chômage depuis 10 ans, je remplis toutes les cases. Ce qui est vraiment intéressant chez les Gilets jaunes, c'est qu'ils ont repris tout un paquet de recettes qu'on croyait épuisées, mais qui fonctionnent toujours. Il suffit de prendre un grand symbole, un symbole qui est à la disposition de tout le monde, le Gilet jaune dont on ne sait pas quoi faire dans la voiture. Pouf, tout d'un coup, ça devient magique. Après, cette sorte d'organisation autour des ronds-points, les discussions, ce qu'on a fait, nous, dans les réunions hebdomadaires, c'est de l'initiation, c'est dans le titre de votre tour de table, c'est vraiment là où les gens apprennent à débattre, donner la parole, échanger, trouver des consensus, et c'est ça qui a tellement gêné les médias, c'est que comme il n'y avait pas de leader, ils avaient l'impression qu'il n'y avait pas de réflexion, puisqu'il n'y avait pas de leader. Or, à chaque fois qu'il y avait des personnes de Gilets jaunes, des porte-paroles qui allaient à la télé, à chaque fois on était effarés de l'érudition, la manière de parler, la manière de s'adresser au public, à travers les médias. C'est ce que nous on a inventé, c'est-à-dire on ne parle pas aux médias, on parle à travers les médias, aux gens directement, c'est eux qui se font l'idée, parce que à la base, exactement comme nous, on n'avait pas confiance aux médias. Les médias, quand on est arrivé, avaient tellement mal parlé du sida pendant les premières années qu'on était en colère. Donc on faisait des actions clés en main où ils avaient juste à reproduire ce qu'on avait dans le dossier de presse. Et je finis là-dessus. Il y a un truc qui est incroyable dans l'organisation des Gilets jaunes, c'est que quand même, ils ont réussi à chaque fois à déjouer les flics, la police, de dire on va se réunir là alors qu'on va ailleurs et tout ça. Et c'est un jeu du chat et de la souris qui est super jouissif quand vous êtes manifestant, que vous avez peur de descendre dans la rue, mais que la cohésion du groupe tout d'un coup vous donne de la confiance. Vous êtes en train de faire quelque chose d'important, on parle de vous à la télé, vous pouvez vous exprimer et vous dites vraiment ce que vous avez sur le cœur, sans filtre. Donc ça, c'est vraiment des choses qui montrent que tous les 20 ans, 30 ans, il y a un truc comme ça qui arrive. On peut remonter au Larzac dans les années 70. Moi, en tant que fondateur d'ACT UP, la désobéissance civile et Stonewall, c'était les deux trucs qui nous ont amenés à...
Oui. C'est pas le rat et le crocodile, c'est le chat et la souris. Mais vous, par exemple, est-ce que vous avez un souvenir de ce jeu de chat et de souris, ou en tout cas d'un die-in? Vous pourriez nous dire ce que c'était, die-in, c'était des actions où tout le monde se faisait semblant d'être mort, où vous représentiez les symboles symboliquement des gens morts, tout le monde et tous les militants et les militantes étaient allongés au sol pour incarner les morts du sida, avec toute une pratique et une doctrine de l'action.
Une scénographie,
et puis en même temps une politique face à la police, de rester allongé, etc. Est-ce que vous avez un exemple, un souvenir qui vous a
particulièrement
marqué?
C'est exactement le même exemple que les écolos font maintenant. Les écolos, maintenant, il y avait un article dans Libé, il y a une semaine, je crois, qui expliquait la nouvelle génération des écolos, surtout des jeunes qui utilisent de plus en plus la désobéissance civile. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus confiance dans les partis écologiques traditionnels. Donc tous les jeunes maintenant vont dans des stages de formation où ils apprennent pendant 2 jours à qu'est-ce que c'est une manif, comment on se comporte vis-à-vis des flics, comment appliquer l'autodéfense, mais justement la défense passive. Nous, à ACT UP, on s'est créé en juin 89. En juillet 89, un mois après, on a fait notre premier atelier de désobéissance civile. On était homosexuels et séropositifs. Je peux vous dire que l'idée d'affronter les flics, ça nous terrorisait. Donc, on avait besoin d'être formés.
Vous avez appris tout ça, vous avez été formé pour ces choses-là, Yona Maret. Vous vous formez sur le tas.
Oui, donc effectivement, les formations dont vous parlez, c'est intéressant parce qu'on les a aussi, on les retrouve dans mobilisation. Donc dès qu'on sort un peu du sentier maintenant battu, des grèves chaque jeudi et qu'on fait des actions beaucoup plus symboliques de désobéissance civile, bah effectivement, on a un besoin de se former parce qu'en fait, désobéir, ça veut dire quoi et comment on le fait surtout. Et puis ben voilà, on est jeune, donc face à la police, c'est important de connaître nos droits, de savoir ce qu'on a le droit nous-mêmes de faire ou pas, à quel moment on dépasse aussi une certaine limite qui nous est malgré tout imposée. Et puis c'est un moyen de rester dans des mobilisations qui sont pacifiques, qui fait qu'en tout cas la violence ne vient pas de notre part et que le seul moment où il y a de la violence, ben c'est pas nous qui l'avons apportée et c'est malheureusement les institutions qui sont répressive.
Sur la question de la visibilité, je pense que ça sera intéressant aussi d'entendre Ina Shevchenko sur ce sujet. Mais alors moi, je suis très frappé par dans ces manifs de la jeunesse pour le climat, par l'inventivité qu'il peut y avoir et dans les slogans et dans les panneaux qui sont proposés. C'est-à-dire on est très très loin des traditionnelles banderoles qu'on peut voir par exemple le 1er mai. J'ai noté quelques slogans, mais il y en a sans doute qui sont encore plus percutants. Mais les calottes sont cuites, ça je crois que c'est mon préféré. Les calottes sont cuites. Ou encore désolé papa, maman, je sèche comme la planète. Est-ce que là, il y a aussi toute une réflexion, Yona Maret, pour se dire, bah voilà, il faut, comme le disait Didier Lestrade, qu'on ait de la visibilité médiatique et donc on va travailler aussi sur nos slogans.
Alors effectivement, c'est drôle que vous en parliez. Les slogans, ça a été un excellent moyen pour nous de faire passer un message sans rien dire au final, parce qu'on s'est vite rendu compte que on était jeunes, on séchait et que donc on n'allait pas être pris au sérieux et que donc forcément on n'allait pas justement être tout le temps entendu. Et donc on s'est dit qu'en fait, justement, ces pancartes, c'était un bon moyen de représenter la jeunesse, dire que c'est notre mouvement, c'est pas nos parents qui nous envoient pour une raison ou une autre, c'est vraiment nous qui descendions dans la rue avec nos idées et du coup nos paroles qui suivent avec. Et puis ça a été un moyen d'attirer l'attention des médias, parce que dans les premières semaines, si vous regardez les articles qui concernent la Belgique, c'est top 10 des slogans les plus inventifs qu'on a vu pas dans la marche. Et donc ça a été un chouette moyen de nous faire entendre.
Ina Shevchenko, on parlait à l'instant de la banderole, des slogans et de la banderole. Il y a un petit livre que j'ai apporté qui s'appelle « La banderole, histoire d'un objet politique ». C'est de Philippe Artière, c'était paru chez Autrement. D'ailleurs, il parle beaucoup d'ACT UP dans ce livre. Et c'est très intéressant parce qu'il fait de la banderole un signe de chair, une seconde peau. Il explique que la banderole, c'est le prolongement du corps manifestant et qu'il y a toujours une espèce d'occupation graphique de la ville et de la rue, qui fait qu'on intervient en écrivant sa politique et son espérance à même la rue. Et vous, vous avez finalement, avec ce corps nu que vous déployez quand vous intervenez, vous montrez bien cette chose que Philippe Artière décrit dans son livre, c'est-à-dire que en dernière instance, la banderole la plus élémentaire, c'est le corps nu et c'est la vie même.
Le corps est le banderole, et surtout le corps féminin est le banderole, et mais je dois préciser que depuis très longtemps, le corps féminin a été le banderole de nos ennemis, des ennemis des femmes. Parce que c'est sur ce corps féminin, toutes les valeurs sexistes dans la société patriarcale ont été et toujours sont projetées dans les institutions politiques, dans les institutions religieuses, dans les rues, partout. Donc, cette corps féminine a été retiré de nous-mêmes, a été confisqué et a été utilisé pendant très longtemps contre les femmes. Le corps féminine était banderole du système patriarcal. C'est ce que nous avons décidé, c'est pour ça que nous avons décidé de reprendre ce corps, reprendre le contrôle total de nos corps et de transformer ce corps en une banderole politique, en pancarte politique, cette democracy wall, si vous voulez, et transformer ce corps à notre propre voix. Parce que, en effet, par le fait de l'utilisation du corps de la femme, la voix féminine a été retirée de ce corps. Donc, ce corps a été le corps du système qui construit par les hommes, pour les hommes et contre les femmes. Et donc, c'était notre but de reprendre le contrôle total de notre corps et de le transformer, de le exposer devant toute la société et dire que maintenant, c'est à nous, aux femmes, de décider quand nos corps vont être sexuels et quand nos corps vont être politiques. C'est à nous. C'est pas aux dirigeants, c'est pas aux industries, c'est à nous, enfin.
En même temps, vous savez qu'il y a des militantes féministes d'autres tendances qui vous reprochent un petit peu dans vos actions, dans la façon dont vous déployez votre corps et le corps des femmes, de reprendre finalement certains des stéréotypes de genre ou des stéréotypes du patriarcat ou du marketing patriarcal que vous dénoncez, c'est-à-dire un corps hypersexualisé, un corps de femme hypersexualisé et correspondant à certains des critères en question. Et vous répondez à ça, non. En fait, nous justement, nous reprenons ces stéréotypes de la femme objet, de la femme publicitaire, et nous le redéployons autrement. Mais c'est une critique qui vous est faite.
Alors, exactement, cette critique, mais quand même, je pense que déjà maintenant, je n'entends pas des critiques comme ça. Il y a quelques ans, c'est vrai qu'on a entendu plusieurs remarques comme ça de la part des féministes, ce qui est bien sûr assez dérangeant pour moi en tant que femme et féministe, parce que affirmer que l'utilisation du corps nu pour les manifestations politiques, c'est aussi la sexualisation des femmes, c'est affirmer ce postulat selon lequel le corps féminin est par définition sexuel. Et quand même, il y a une problématique dans cette idée-là. Et donc, exactement ce qu'on fait, c'est on fait le contraire, de dire que maintenant, ce corps, on retire le corps féminin d'un contexte sexuel, et on le place dans le contexte politique. Ce corps, le corps de femmes, ce n'est pas un corps féminin passif, n'est pas un corps silencieux. Vous pouvez regarder, si vous voulez, les seins nus des activistes féminines tant que vous voulez, mais vous pouvez pas ignorer les paroles qui sont inscrites sur ce corps-là. Vous pouvez pas les ignorer, vous pouvez pas les effacer. Ce corps parle pour lui-même. Ce corps n'est plus silencieux, n'est plus passif.
Emmanuel Rengoat, puisqu'on parle de banderoles et de la façon aussi peut-être de les réinventer, alors s'agissant des gilets jaunes, c'est vrai qu'il y a quand même cette idée de génie. Je ne sais pas si elle avait été pensée comme telle au départ, mais ce vêtement qui devient un symbole politique extrêmement fort.
Oui, c'est un symbole qui devient très fort. C'est aussi effectivement, comme l'a dit Didier Lestrade tout à l'heure, un élément extrêmement pratique, c'est-à-dire que tout le monde peut s'en saisir. C'est aussi un élément qui permet de ne pas avoir de... la création de l'identité collective, elle se fait pas en passant par un outil partisan, un outil syndical ou un outil d'organisation. C'est aussi ce qui donne à voir que tout le monde peut l'être, mais qu'en même temps, tout le monde l'est sans être dominé par une structure. Et ça, c'est vraiment typique des Gilets jaunes. Je voudrais rebondir aussi sur d'autres éléments qui ont été dits. Il y a peut-être un peu de ça dans les Gilets jaunes aussi, quand l'usage des corps dans les mobilisations en général, et je pense que c'était le cas de Femen, c'est aussi souvent le fait d'acteurs qui n'ont pas d'autres ressources pour être entendus, ou pour faire pression sur les élus ou sur les instances décisionnelles. On retrouve ça, par exemple, chez les sans-papiers, etc. Mmh. Donc c'est, et là, on l'a vu, société patriarcale, où on se fiche complètement de la parole des femmes. Il y a un outil de visibilité qu'on retrouve dans toutes les mobilisations où il y a du festif ou du coup médiatique dans les mobilisations climatiques. Je pense aussi aux mobilisations des stagiaires où là, ils ne pouvaient pas être vus parce qu'ils avaient peur d'avoir de la répression ou de manquer de travail. Ils mettaient des masques blancs. Donc il y a des usages, on va dire, inventifs et créatifs de mobilisation pour trouver des moyens de se faire connaître et de se faire entendre, adaptés aux ressources qu'on a finalement.
Est-ce que ça a une efficacité, Yuna Maret, cette façon justement de se mobiliser qui est assez, à la fois on trouve qu'il y a évidemment des points communs hein, avec ce que racontaient Didier Lestrade et Ina Shevchenko, mais on voit bien qu'en tout cas dans la façon de manifester, il y a une grande inventivité. Est-ce que ça a une efficacité sur le plan politique? C'est-à-dire par exemple, est-ce qu'en Belgique, vous ou d'autres lycéens ou lycéennes avez été mieux entendus, voire peut-être reçus par du personnel politique qui, vous voyant manifester, se sont dit ben voilà, là il y a un groupe de pression qui est face à nous et il faut peut-être quand même qu'on les écoute davantage.
Tout à fait. Donc, descendre dans la rue, ça a été pour nous vraiment le moyen de renverser le pouvoir qui avait été mis en place et d'instaurer notre propre rapport de force en forçant la parole, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que...
Quand vous dites renverser le pouvoir, c'était pas aller jusqu'à renverser le gouvernement belge.
Non, je parle pas d'anarchie, je parle bien sûr de renverser le pouvoir de parole qui était en place, parce qu'on s'est rendu compte qu'en tant que jeune, et ça c'est dans le monde entier, on n'est pas entendu, ou en tout cas on est moins légitime qu'un adulte sur la même question. Et ça c'est un constat qu'on a fait dès les premiers jours. Et donc on s'est rendu compte que la rue, c'était vraiment un moyen de se faire entendre, de se faire connaître. Et donc très rapidement, les politiciens belges qui étaient en campagne d'élection, parce qu'on a eu des élections en Belgique en juin, se sont rendus compte que s'ils voulaient être populaires auprès de la population belge, ils devaient nous écouter, parce que c'était l'envie du peuple. On s'est retrouvés un jour jusqu'à 70 000 dans la rue, et là on était jeunes, moins jeunes, c'était intergénérationnel, et c'est à partir de ce moment-là que les politiciens belges se sont dit, mais tiens, il faudrait peut-être les écouter, ces jeunes. Donc rapidement, on a été très fort invité, que ce soit au niveau médiatique, dans les cabinets, dans les ministères, on a été très représenté au niveau politique. Alors au début, on se disait chouette, on va se faire entendre. Et puis rapidement, on se rendait compte que justement, ils étaient en campagne électorale et donc que c'était un moyen pour eux de récupérer le mouvement plutôt que vraiment de le faire avancer. Et donc on a énormément réfléchi, est-ce qu'il faut couper la communication avec les politiques ou pas. Résultat, on ne l'a pas coupé, mais on a réussi à dévier en fait leur récupération politique pour leur faire comprendre qu'on ne marchait pas pour eux, on n'était pas là pour les féliciter de leur politique qu'on jugeait insuffisante, mais plutôt pour leur demander d'en faire plus ou de complètement changer leur mode d'action qu'ils ont actuellement. Donc ça a vraiment été pour nous, les médias et les politiques, un moyen de nous faire entendre.
Est-ce que vous avez été aussi efficace, Didier Lestrade, il y a 30 ans ?
Oui, je crois que c'est toute une question de symbole. À partir du moment où on apparaît, de toute façon, quand vous apparaissez, il y a plein de gens qui, de toute façon, ne vous aiment pas n'importe comment. Et surtout chez les jeunes, on a vu ça, quoi. Il y a eu plein de critiques sur Greta et tout ça, sur le fait, ouais, ils arrivent pas à s'exprimer, ils connaissent pas le sujet. Non, justement, ce qui est intéressant, c'est que dans ces mouvements, il y a de la visibilité, bien sûr, mais il y a du travail, il y a de l'initiation à l'intérieur. Nous, à ACT UP, le grand boulot d'ACT UP, ça n'a pas été les manifs, bien qu'elles ont été super géniales et bon, mais c'était le travail médical, c'était le travail dans les commissions. Notre boulot, c'était de trouver des médicaments pour les malades qui n'en avaient pas, de faire pression sur les labos qui n'allaient pas assez vite, de faire pression sur l'État. Et en l'espace de 6 ans, on a réussi à retourner une situation où il n'y avait qu'un seul médicament et après, on avait les multithérapies. Donc, on voit bien que sur les droits des femmes, sur les gilets jaunes, sur l'écologie, on se retrouve à une situation de société bloquée et que ce qui nous passait vraiment impossible au départ, parce qu'on a commencé, on était 3, 4, 10, comment on peut arriver à retourner la situation? C'est ce que vous disiez. Et franchement, il suffit de travailler comme des dingues pendant plusieurs années, mais c'est étonnant d'arriver à avoir des solutions très rapides quand on s'y colle et surtout quand on apporte, quand on diffuse l'information, l'érudition, la formation, travailler en groupe, apprendre aux gens à écrire, à se... C'est vraiment, ACT UP, ça a été une école, ça a été dit plein de fois. Hein. Il y a des gens qui savaient rien faire, on les mettait devant un Mac, pas devant un PC merdique, devant un Mac.
C'est l'instant publicitaire de ces rencontres. Mais Didier Lestrade, tout à l'heure, Ina Shevchenko parlait d'une, elle a dit une très belle chose, elle a dit pendant longtemps, il faut pas oublier que la banderole, que le corps des femmes était la banderole de leurs ennemis. Et finalement, une idée qui court en permanence au fil de ces journées, c'est aussi que réinvestir la rue, c'est réinvestir un lieu dont on a l'impression qu'il est occupé ou livré aux ennemis. Et moi, il y a une formule qui m'a beaucoup frappé à l'époque dans ce livre qui s'appelle « Réflexion sur la question gay » de Didier Ribon, où il dit « Au commencement était l'injure. Au commencement de l'identité gay, au commencement de l'identité homosexuelle, il y a l'injure. L'injure qu'en permanence, même quand elle n'est pas là, même quand elle ne survient pas, on croit toujours qu'elle rôde quand on est notamment dans la rue et qu'on se balade et qu'on est en couple et qu'on voudrait avoir un geste de tendresse et que ce geste est interdit. » Et à un moment donné, dans ce petit livre qui s'appelle « Papier d'identité », on se demande aujourd'hui comment la rue peut être un endroit où on se réapproprie son identité. Eh bien, Didier Ribon, à ces mots, il parle de l'injure en disant qu'elle a la force d'un pouvoir constituant. Car la personnalité, l'identité personnelle, le plus intime de la conscience, est fabriquée par l'existence même de cette hiérarchie et par la place que l'on y occupe, et donc par le regard de l'autre. Donc finalement, il y a aussi cette dimension dans ACT UP, c'est-à-dire à un moment donné, réinvestir la rue de façon spectaculaire, c'est-à-dire à un lieu qui était longtemps celui de l'injure et de la peur identitaire et qui devient un lieu de fierté.
Et retourner l'injure, l'assumer, c'est-à-dire que tout l'esprit queer, tout l'esprit alternatif, révolutionnaire, anarchiste, fouteur de... Enfin, ACT UP, c'était une très bonne machine qui marchait bien, mais quand même, il y avait surtout des gens qui étaient surtout incontrôlables, qui n'allaient pas à Aide, parce que Aide disait, vous voulez faire foutre le bordel, allez chez ACT UP. Donc, on avait tous les cas de la société quand même chez nous. Et ce qui était d'autant plus difficile quand même pour leur donner une certaine autodiscipline. Mais c'est ça qui donne la force au groupe. C'est parce que, on le voit dans 120 battements par minute et tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui sont vraiment fous, comme dans les Femmes, que ça fait bouger le curseur.
Qu'est-ce que ça a fait bouger, justement, d'après vous, Ina Shevchenko, les Femmes? C'est-à-dire, il y a l'idée de retourner l'injure et de retourner la situation. Est-ce que vous avez l'impression que... Enfin, si vous deviez faire le bilan, c'est quoi? C'est 10 ans, à peu près, d'activisme?
Exactement 10 ans.
Ouais. Exactement 10 ans d'activisme et de militantisme. Qu'est-ce qui, selon vous, peut être mis au crédit de ce mouvement?
Oui, c'est intéressant, cette question de l'efficacité des actions, de désobéissance civile, des mouvements sociaux. Comment on mesure l'efficacité des mouvements qui travaillent dans la sphère de l'opinion, de changer les mentalités? Comment on compte combien de mentalités on a changé? Comment on peut vraiment mesurer cette efficacité? Donc déjà, c'est une question assez, je pense, fausse, parce que il y a un peu cette message comme si on était au pouvoir vraiment, comme si on a eu les instruments de vraiment passer les lois, changer, faire des réformes. Non, justement, notre travail, nous avons le pouvoir et le courage et le désir de rompre le silence sur les problématiques et les sujets qui sont ignorés ou cachés volontairement. Mais c'est les dirigeants qui ont le pouvoir de vraiment changer les vies. Et donc, notre travail, c'est de chaque fois rappeler que c'est à vous, c'est votre travail, votre responsabilité. Et donc, c'est être cette alarme, être ce cloche dérangeant qui cloche tout le temps. Et donc, voilà, c'est ça, c'était toujours le travail de Femen, et ce reste notre but d'aller dans les lieux, dans l'espace, sur les problématiques où personne d'autre vient, de parler, de crier quand les autres gardent le silence. Mais c'est vrai que si je pense de dernières 10 ans des actions de Femen, tout en commençant en Ukraine, en continuant ici en France et aujourd'hui dans dizaines d'autres pays, je sais que je peux bien sûr parler d'une action ou l'autre action, même la dernière action de Femen ici en France, le 30 mai, qu'on a fait l'action pour dénoncer le silence gouvernemental par rapport au féminicide, cette tragédie. Et donc, on a déclenché encore les débats tout ensemble avec les actions des autres associations féministes françaises. Mais si je pense vraiment en général, c'est quoi? Alors, est-ce que je peux être fière de quelque chose très précis? Et oui, je peux être fière de chaque fille qui était féminine, qui est toujours féminine et qui va être féminine. Chaque femme qui a rejoint le mouvement, qui a changé son propre rapport par rapport à son corps. Et moi, je suis une de ces filles. Et ça a changé mon rapport à moi-même, mon rapport au monde, mais aussi ça a changé le monde pour moi, que je vois autour de moi, et mes ambitions, mes projections par rapport au monde que je veux construire avec les autres. Donc c'est ça l'efficacité.
Didier Lestrade tout à l'heure parlait d'ateliers de désobéissance civile. Il parlait du fait qu'à ACT UP, il y avait eu des ateliers de désobéissance civile et aussi des ateliers d'autodéfense. Dans la tradition du féminisme, dans l'histoire du féminisme, il y a eu évidemment beaucoup, beaucoup de mouvements d'autodéfense. On parlait de retourner l'injure, ben, il y avait aussi l'idée de retourner le corps ennemi ou le corps qui vous attaque dans la rue, le corps de celui qui attaque le corps des femmes. Et Elsa Dorlin, qui est une jeune philosophe, qui était venue d'ailleurs aux rencontres de Pétrarque il n'y a pas si longtemps, a fait un livre qui s'appelle « Se défendre ». Philosophie de la violence, et qui est un livre entièrement consacré à la question de l'autodéfense, et notamment l'autodéfense féministe. Et elle dit, je la cite, « En libérant les corps des vêtements qui entravent les gestes, en déployant les mouvements, en détournant, dévoyant l'usage d'objets familiers, parapluies, épingles, broches, manteaux, talons, en ravivant les muscles, en exerçant un corps qui habite, qui occupe la rue, se déplace, s'équilibre, l'autodéfense féministe instaure un autre rapport au monde, une autre façon d'être. » Est-ce que vous avez l'impression que d'une manière ou d'une autre, vous vous inscrivez dans cette tradition?
Alors peut-être je suis en moitié de chemin parce que je porte des talons, mais j'ai des muscles, regardez. Donc Oui, bien sûr, c'est le corps libéré des dictats, le corps libéré des règles, de la mode, le corps qui en effet choisit comment il se sent confortable. C'est ça plutôt ma philosophie. Si il y a quelques ans, j'étais voilà, si on regardait mon corps, on pourrait dire ah c'est une, on appelle les filles qui comme ça, on les appelle un garçon manqué. Parce que je me suis habillée plutôt de façon soi-disant masculin. Aujourd'hui, je me sens plus confortable avec des vêtements ou des signes féminines dont je retrouve ma féminité qui me fait encore sentir quelque chose d'intéressant et je me découvre d'un autre côté. Donc je pense que se libérer plutôt des dictats, des règles, des morales imposées, oui, mais garder le choix et le faire.
Emmanuel Rengoat, donc je rappelle que vous êtes politologue, alors vous avez un statut, on va dire, un petit peu différent par rapport à nos trois autres invités qui sont des acteurs de mouvements. Vous les observez, en l'occurrence, donc ce mouvement des Gilets jaunes avec plusieurs dizaines d'autres chercheurs sur la question de l'efficacité. Alors c'est un mouvement qui est sans doute trop jeune pour être jugé à cette aune-là, mais qu'est-ce que ça a changé dans ce que vous pouvez constater dans les discussions que vous avez avec ces gens qui se considèrent peut-être encore aujourd'hui comme des Gilets jaunes? Qu'est-ce que ça a changé pour eux? Quelle situation ils ont le sentiment d'avoir réussi à retourner, si tant est qu'ils aient ce sentiment?
Alors, c'est... je vais répondre par rapport à ce qui a été dit là. Je pense qu'on est vraiment au cœur de ce qu'est le rôle ou l'intérêt des mouvements sociaux. C'est à la fois de faire émerger des problèmes publics, et on a vu que c'est le cas des trois mouvements sociaux qui sont là, mais aussi des Gilets jaunes. Et en cela, la question du pouvoir d'achat, les différentes revendications qui ont été mises en place, pouvoir d'achat, puis justice fiscale, puis finalement critique du système institutionnel par le référendum, par le RIC, c'est des choses qui ont émergé et qui... C'est intéressant en soi parce que ça a aussi invisibilisé d'autres problématiques. Par exemple, on a beaucoup parlé au début du rapport des Gilets jaunes à l'extrême droite. C'est un rapport complexe. Mais par exemple, la question des migrants, elle n'a pas du tout émergé via le mouvement des Gilets jaunes. Ça ne veut pas dire que les Gilets jaunes sont tous pro-migrants, etc. C'est pas du tout ça. Mais c'est intéressant. Ce qu'ils ont fait émerger, c'est pas ça. Et là, on est très, très à l'écart de tout ce que dit l'offre politique sur les 10 dernières années, par exemple. Donc cette idée que les mouvements sociaux ils font émerger des problèmes politiques, des problèmes publics, souvent qui expriment des revendications de gens qui sont invisibilisés. Les femmes, par exemple, les homosexuels qui ont le sida, ou le sida en soi dans les années 80, etc. Et puis, donc ça peut produire aussi parfois des lois, mais il y a simplement cette idée que ça devient un enjeu public principal, alors que ça ne l'était pas. Et puis, il y a ce que ça produit sur les individus, sur les gens, sur ceux qui se mobilisent, et puis sur les gens qui les lisent, qui les écoutent, etc. Et là, il y a des effets de politisation qui sont extrêmement intéressants, et pour les gens qui sont très investis, et on voit ça chez certains Gilets jaunes, ça a un impact sur la vie personnelle, c'est-à-dire que on change ses réseaux de sociabilité, on transforme un peu son rapport aux politiques, et chez les Gilets jaunes, ce que je trouve intéressant, alors, c'est très hétérogène le mouvement des Gilets jaunes, donc c'est pas pareil pour tous les Gilets jaunes, etc., mais il y a quand même l'idée que... Il y a ce qu'on appelle un empowerment. Alors, désolé d'utiliser un mot anglais, mais il n'y a pas trop l'équivalent. C'est l'idée qu'on va se sentir légitime à parler politique, à aller. Moi, j'ai beaucoup de Gilets jaunes qui ont pris une parole en public sur une grande place à la Comédie, par exemple, ici, qui ont parlé à un député, qui sont allés au grand débat sans y croire, mais qui ont pris la parole publiquement, ou tout simplement, c'est ce qui était dit dans l'exemple d'ACT UP tout à l'heure, qui, en faisant des assemblées générales ou des petits ateliers, ont discuté politique, se sont sentis légitimes à le faire et sont sortis de leur, on arrive avec son récit de vie. Avec son récit de voilà, j'arrive pas à terminer mes fins de mois, c'est difficile, où on est plus dans la culpabilité individuelle, et puis on crée un récit collectif qu'on intègre dans une pensée de système politique. Donc on comprend qu'en fait, on est plusieurs à partager ça, ça fait système, et on peut peut-être changer ce système. Et là, on a un vrai, c'est pas toujours aussi systématique et aussi fort que ça, mais on a quand même de vrais effets de politisation. Et juste pour terminer, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, je pense que ce rôle des mouvements sociaux de faire émerger des problèmes publics et de créer de la politisation des citoyens, de faire émerger des nouvelles revendications, c'est un rôle que les mouvements sociaux ont toujours eu, mais qui est plus important aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est qu'on est dans un contexte historique d'éloignement entre les citoyens et le pouvoir. Les citoyens, ils ont moins de capacité de contrôle des instances qui décident, parce que les gouvernements sont plus faibles, parce qu'on a des instances supranationales, des agences de notation, etc. Puis parce qu'on a des modes de légitimation de la prise de décision qui sont nouveaux, on fait beaucoup recours à l'expertise et beaucoup moins au vote, on demande moins aux citoyens de participer, en fait, tout simplement. Et les mouvements sociaux, ils sont de la participation active. Et deuxième raison, c'est parce que les mouvements, les partis politiques, ils sont en recomposition. On voit bien que le système politique, en particulier en France, c'est plus que c'était il y a 20-30 dernières, les 20-30 dernières années. Les partis politiques, ils font plus les fonctions traditionnelles qu'ils avaient d'être des intermédiaires. Où ils contribuent à politiser une partie de la population et à faire remonter les revendications. Et tout ce qu'on a entendu là sur les formations, sur comment ça forme les mouvements sociaux, c'est des apprentissages de savoir-faire militant, mais aussi changer sa manière de penser, ça, c'est des choses que les partis faisaient, qu'ils ont un peu abandonnées, qui sont très forts maintenant chez les mouvements sociaux.
Didier Lestrade.
Moi, je pense que c'est le point crucial de ces mouvements, c'est de dénoncer une situation de blocage. Je considère, moi, qu'en France, les Gilets jaunes arrivent parce que l'écologie arrive, parce que on est face à une situation où on a l'impression d'avoir tout essayé, et surtout, ça n'avance pas. Tous les sujets de société, moi, qui sont vraiment importants pour moi, n'avancent pas. La PMA, les trans, l'accueil des personnes âgées, comment on fait pour la fin de vie, l'arrivée du cannabis thérapeutique, tous ces trucs-là, on est un pays entouré de pays qui ont déjà avancé sur ces sujets. Et je dis toujours qu'on ne fait plus le lien entre le Nord et le Sud, mais surtout, c'est que vraiment, maintenant, on réalise qu'il suffit d'une minorité pour bloquer une société entière. Par exemple, il suffit de cathos intégristes pour qu'il n'y ait pas la PMA. Et il suffit d'une mère de famille pour que quelqu'un reste dans son lit d'hôpital pendant 10 ans. Et ça, c'est à un moment, je dis pas que c'est un manque d'autorité, mais en tout cas, ça montre bien que la société n'avance pas aussi vite que ce qu'on peut regarder. Et maintenant, tout le monde va à l'étranger avec les voyages, gros problème écologique, mais on voit bien qu'à l'étranger, il y a des choses qui se passent et qu'en France, on est toujours bloqué.
Ina Shevchenko, est-ce que du coup, pour faire avancer davantage les choses, ça suppose aussi, quand on est militante comme vous l'êtes, de penser aussi à côté d'autres façons d'agir, c'est-à-dire il y a la façon très visible, très médiatique et très très forte, hein, qui est celle des FEMEN, mais par ailleurs, alors vous faites depuis quelques semaines partie d'un groupe, le Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes, qui est un conseil qui a été créé à l'initiative de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraissait essentiel et complémentaire à votre activité au sein des FEMEN?
Alors, c'est vrai que c'est assez bizarre, ça fait bizarre de rentrer à l'Élysée par l'invitation et pas par l'intrusion, comme on fait en général. C'est vrai, je confie. Mais sérieusement, si on a commencé notre combat, c'est parce que, en effet, on était silencieux. Personne n'a été intéressé par nos demandes, nos visions, nos idées. Mais là, si quelqu'un me demande de rentrer dans une salle où il y a une chaise vide pour moi, où je peux m'exprimer, proposer, demander, proposer mes réformes, pointer sur certains problèmes, je ne vais jamais refuser cette chaise, parce que en effet, c'est pour ça que je me bats. Et je pense que c'est aussi une responsabilité devant toutes les autres femmes pour lesquelles on bat. Je peux pas refuser une opportunité de changer quelque chose. C'est très probable que nous allons échouer, mais je pense que les gens qui n'essayent pas échouent plus vite que les autres. Et donc, si je peux me permettre de rester quand même activiste, et comme on a ce privilège d'avoir la public devant nous, Didier, vous avez dit qu'il suffit une minorité de bloquer situation. Mais je voudrais vous dire qu'il suffit aussi une minorité de débloquer la situation. Et je pense qu'il faut vraiment, 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 c'est notre responsabilité d'appeler plus de gens, de comprendre que vous avez le pouvoir et la rue, c'est vos parlements, c'est vos assemblées nationales. la rue est votre espace politique. Il ne faut pas attendre au nom des gens. Il faut continuer, bien sûr, mettre la pression. Mais il ne faut pas toujours juste attendre que quelqu'un d'autre va nous sauver. Nous pouvons être nos propres dirigeants et nous sommes assez héroïques tout ensemble. Et je pense qu'il faut chaque fois utiliser cette opportunité de rappeler aux gens que vous avez le pouvoir, pas eux, vous. Merci.
Luna Maret, je me retourne vers vous. Il y a une question générationnelle que je voulais vous poser aussi, une question du point de vue de la culture populaire. En fait, depuis le début de la semaine, on a parlé de beaucoup de types de mobilisations dans les rues et on a fait très peu allusion aux émeutes urbaines, aux émeutes de banlieue, à tous les événements, notamment à 2005, etc. Et donc, par exemple, on a très peu parlé, là je réponds à une requête d'Hervé Gardette qui m'a dit « Mais quand est-ce que tu vas citer Booba pendant ces rencontres de Pétrarque ?»
Mais vous savez que chaque année, hein,
le rappeur Booba dit toujours « Je suis le bitume avec une plume ». Quand il veut résumer ses chansons, son œuvre, il dit « Je suis le bitume avec une plume ». Et il dit aussi « Les gens parlent d'amour, moi je parle de ce que je connais, les rues de ma vie, c'est ce que je connais ». Or, le bitume avec une plume, le rap, etc., ont énormément irrigué, ou en tout cas, ces traces, on parlait des banderoles, de l'écriture de la rue tout à l'heure, ces traces-là ont irrigué et aussi parfois embrasé les émeutes de banlieue. Est-ce que vous, cette culture-là, vous l'avez? Est-ce que vous vous intéressez, par exemple, à la culture hip-hop, au rap? Est-ce que dans vos mobilisations, en termes générationnels, vous avez en tête aussi cet héritage des émeutes de banlieue et des chansons qui les ont accompagnées?
C'est la première fois qu'on me pose cette question, qui est très étonnante.
Désolée, on vous a pas donné de dossier de presse comme disait l'Estrade dans le réclamait tout à l'heure.
Alors pour vous répondre, honnêtement, non. Enfin, je pense pas y avoir déjà parlé, mais je pense que on peut faire un pont qui est, mais je pense qu'on en a énormément parlé ce soir aussi, qui est cette colère de ne pas avoir assez été entendu. Donc lui, quand il dit le bitume avec une plume, c'est que d'apparence il est rock, mais qu'il a un message à faire passer. Ben nous, d'apparence, on est des jeunes, on est censé être derrière les bancs de l'école, et pourtant on a un message à faire passer. Et donc cette mobilisation, ça a été un moyen de conscientiser les gens. Donc on parlait de notre responsabilité première, c'était de rameuter les gens autour d'un mouvement. Ben nous, ça a été notre grosse responsabilité, ça a été un éveil des consciences. Le mouvement en Belgique existe depuis janvier et déjà autour de moi je vois la différence. Je vois des gens qui me disent bah tiens, c'est des actes individuels, c'est des petits actes. Ils vont me dire j'ai acheté une gourde, je mange moins de viande, mais c'est par là que ça passe aussi, parce que au niveau résultat aussi, si on nous demande nous concrètement quels sont les résultats, je pourrais pas vous parler de lois parce que il y a des lois qui ont été discutées. Ça c'est aussi la spécialité belge, c'est de discuter pendant longtemps, de faire traîner et puis au final après plusieurs mois nous dire ça n'a pas été signé. Et donc au niveau de l'éveil des consciences, on a vraiment eu, que ce soit au niveau des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, ma grand-mère, qui a 85 ans, s'est achetée une bouteille Brita et n'achète plus de bouteille en plastique. Et elle a 85 ans. Donc le changement, pour le commencer, il n'est jamais trop tard. Et puis, je vais rien vous apprendre, cet effet boule de neige, on a lancé les premiers flocons, mais c'est en train de devenir de plus en plus gros. Mmh. Et j'ai lu dans un article une phrase que je trouvais très jolie à propos de notre mobilisation. Il disait, les jeunes, c'est un peu comme les oiseaux qui annoncent la tempête. Ben, c'est un peu ça, on est les premiers à l'avoir lancé, on a pris notre envol, mais il y a des guerriers derrière qui arrivent. Et j'espère que demain, on ne parlera plus de mobilisation jeune, mais de mobilisation d'humains qui veulent pouvoir continuer d'habiter sur cette planète qui est la seule.
Bah, Booba n'a qu'à bien se tenir, hein, parce que je trouve que là, il y a quelques fulgurances dans ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, en tout cas, tous les quatre, d'avoir participé à cette discussion. Emmanuel Rungwat, Yuna Maret, Ina Shevchenko et Didier Lestrade. Les ouvrages des uns et des autres, les sites, c'est sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci aux équipes du Rectorat à Montpellier, aux équipes du Festival de Radio France, les Rencontres de Pétrarque. C'est une émission qui est réalisée par Nathalie Salle, préparée par Fanny Richer, avec à la prise de son Julien Calvas et Patrick Muller, et à la sonorisation Gilles Manet et Alex Martin. On se retrouve demain, ce sera la dernière journée de ces 33e rencontres, ce sera toujours à 19h, pour raconter d'autres rues que les nôtres. Nous irons en Chine, nous irons en Tunisie, en Algérie, nous irons aux États-Unis, nous serons en compagnie de Sophie Bessis, de Lun Zhang et de Papendiaï. À demain.